La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume, et on commence évidemment ce matin avec le grand chamboule-tout quand le quotidien El País note que le gouvernement des irréprochables aura tenu à peine un mois. Le Temps remarque pour sa part que le mini remaniement en France hier aura débouché sur un maxi bouleversement, ou dit autrement, le premier gouvernement du quinquennat Macron est aujourd'hui décapité, tranche le journal de Lausanne. Une crise inédite tant par sa rapidité que par son ampleur, pas moins de 3 portefeuilles régaliens change de main, sans compter, précise le magazine Slate, que ce ne sont pas seulement 3 ministres soupçonnés qui quittent le gouvernement, mais aussi 3 poids lourds d'une des 2 composantes de la majorité. Pour autant, et même si certains, à l'instar du Financial Times, estiment que ces démissions en cascade constituent une gêne pour Emmanuel Macron, nombre de commentateurs supputent au contraire que ce changement ne contrariera pas le président outre mesure. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une décision cohérente. La Zulutür rappelle que la victoire d'Emmanuel Macron est en grande partie liée à sa promesse de nettoyer un monde politique entaché par l'avidité et la corruption. Et en ce sens, il était grand temps que le ministre soupçonné de corruption, Richard Ferrand, quitte le gouvernement. Mais ne nous y trompons pas, ce remaniement est également stratégique, analyse Il Soleil. En l'occurrence, le départ de Richard Ferrand permet à Emmanuel Macron à la fois d'éliminer les dangers potentiels pour son gouvernement, le parquet ayant ouvert une enquête préliminaire contre l'ex-ministre de la Cohésion des Territoires, tout en portant l'un de ses alliés les plus fidèles à un poste clé, la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Sans compter que ces départs sont aussi l'occasion pour Emmanuel Macron d'élargir sa coalition, tout en affaiblissant un peu plus encore les camps socialistes et conservateurs, note de son côté Die Tageszeitung. Enfin, la Frankfurter Allgemeine s'intéresse en particulier au cas Sylvie Goulard, l'ex-ministre de la Défense, car à Berlin, écrit le quotidien, nombreux sont ceux qui vont regretter le départ de cette germanophile et européenne convaincue.
Et l'Europe, justement, Thomas, il en est question ce matin avec l'interview fleuve d'Emmanuel Macron.
Oui, pour son premier grand entretien depuis son entrée à l'Élysée, alors qu'il doit participer aujourd'hui à son premier Conseil européen, Emmanuel Macron a choisi pas moins de 8 quotidiens européens pour dévoiler sa vision de l'Europe. Selon lui, la relance européenne passera d'abord par l'alliance franco-allemande, sauf que pour être crédible aux yeux de Berlin et du monde, la France doit aussi accomplir, dit-il, des réformes fondamentales indispensables. Pour Emmanuel Macron, la clé pour repartir, c'est notamment une Europe qui protège. Il plaide ainsi pour une vraie politique de défense et de sécurité commune. Enfin, le président réaffirme que la lutte contre le terrorisme islamiste constitue sa priorité absolue. Ce sont eux nos ennemis, dit-il, en désignant les groupes terroristes.
Et la lutte contre les terroristes, elle nous ramène ce matin, encore une fois, à Mossoul.
Les habitants de Mossoul l'appelaient la Bossue, ce minaret penché était un emblème de la ville avant de devenir aussi un symbole du règne de l'EI lorsque les djihadistes y ont planté leur drapeau noir à son sommet à 45 mètres de hauteur. Or, hier soir, précise The New York Times, au 4e jour de l'offensive menée contre Daesh, les islamistes, sur le point de perdre le contrôle de la ville, ont entouré le minaret et la mosquée adjacente d'explosifs avant de les détruire. Alors, peu de temps après que l'armée irakienne eut annoncé la nouvelle, le groupe terroriste a rapidement réagi en accusant l'aviation américaine d'avoir détruit les 2 monuments. En réalité, poursuit le quotidien américain, en refusant ainsi aux forces irakiennes la reprise de ce minaret, ce que beaucoup avaient déjà anticipé comme une image symbolique de la libération de la ville, Daesh a entrepris une grande opération de propagande en faisant porter sur la coalition la responsabilité de la destruction de la mosquée et de son célèbre minaret. Le journal qui précise par ailleurs que dans tout le territoire qu'il contrôle, l'EI utilise les mosquées à des fins essentiellement militaires. Quand les minarets sont généralement investis par les tireurs d'élite, les salles de prière sont-elles transformées en usines de fabrication de bombes et les cours utilisés pour y stocker les armes.
Enfin, au Portugal, alors que les premières funérailles des victimes suscitent une forte émotion dans le pays, les pompiers poursuivent sans relâche leur combat contre l'immense incendie qui fait rage depuis samedi.
Oui, et une photo virale en particulier résume bien le combat et les sacrifices des pompiers portugais. On y voit 13 soldats du feu exténués, littéralement effondrés sur l'herbe comme morts. En réalité, tombés dans le sommeil sans même avoir pu, pour certains, enlever leur combinaison. Sur le site El País Verne, l'homme qui a pris cette photo, l'un des 1200 pompiers portugais qui se succèdent pour essayer de venir à bout des flammes, précise « Après une nuit et un jour de combat contre l'incendie, nous avons eu droit à 25 minutes de repos pendant que les véhicules remplissaient leurs réservoirs d'eau. » Enfin, à l'orée d'un été annoncé spécialement féroce, le débat s'envenime, même si le feu a vraisemblablement été provoqué par un orage sec, un phénomène climatique peu courant sous ces latitudes, beaucoup de médias s'interrogent encore ce matin. Pourquoi a-t-on permis aux automobilistes en péril de transiter par la nationale EN236, depuis baptisée la route de la mort? Pourquoi aussi y a-t-il eu des dysfonctionnements au sein du système national de coordination entre toutes les forces d'intervention? Pourquoi, s'interroge ainsi Publico, avant d'ajouter, nous ne pouvons plus nous contenter de hausser les épaules, nous devons demander des comptes. Oui, il va falloir parler responsabilité politique.